à Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui, au sommaire ce soir. La force française Barkhane annonce la neutralisation d'une cinquantaine de djihadistes dans le centre du Mali. Selon les Nations Unies, les violences au Burkina ont déplacé près de 4000 personnes par jour depuis le début de l'année. À la veille de la présidentielle au Togo, nous ferons le point avec notre envoyé spécial à Lomé. Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, est confiant de la prochaine signature d'un accord avec les talibans après une baisse des violences en Afghanistan. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, la force française Barkhane a mis hors de combat ces derniers jours une cinquantaine de djihadistes dans le centre du Mali. C'est ce qu'a annoncé l'état-major français aujourd'hui, alors qu'un groupe a récemment prêté allégeance à l'organisation État islamique dans cette zone. Nathalie Barge.
Entre le 9 et le 17 février, Barkhane a mené des opérations autour de Mopti qui ont permis de neutraliser une cinquantaine de djihadistes, de détruire une trentaine de motos et de pick-up et de saisir armement, téléphone et matériel électronique, indique l'état-major français. Au cours d'une première opération au nord-ouest de la ville, des frappes aériennes ont permis de neutraliser une vingtaine de combattants, dont un cadre du groupe État islamique au Grand Sahara. Fin janvier, à Nampala, près de la frontière mauritanienne, une soixantaine de personnes ont prêté allégeance à ce groupe dirigé par Adnan Abou Walid Al-Sarwi. L'armée française ne précise pas si les frappes visaient cette katiba. Une deuxième opération menée au sud de Mopti, où sévit la katiba Massina d'Amadou Koufa, a permis de mettre hors de combat une trentaine de djihadistes, ajoute l'état-major. La force Barkhane vient d'annoncer son passage de 4500 à 5100 hommes d'ici à fin février, dans l'espoir d'inverser le rapport de force sur le terrain.
Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, quelque 4000 personnes sont déplacées chaque jour depuis le début de l'année par les violences au Burkina Faso. Bagassi Koura.
En 2019, la moyenne était de 1400 déplacés par jour à la suite d'attaques commises contre les civils et les autorités locales, a déclaré Bahar Baloch, porte-parole du ACR. L'agence onusienne indique avoir comptabilisé 765 000 déplacés au Burkina Faso, dont plus de 700 000 ces 12 derniers mois. Environ 150 000 personnes ont été déplacées durant les trois dernières semaines. La plupart des déplacés séjournent dans des communautés d'accueil. Le ACR peine à leur venir en aide car dans de nombreuses régions, l'accès est problématique en raison de l'insécurité. Les personnes qui fuient les violences ont fait état, selon le ACR, d'attaques contre leurs villages, de meurtres, de viols et de pillages.
Au Nigeria, la justice a libéré aujourd'hui 87 membres d'un groupe chiite radical accusé d'être responsable de la mort d'un soldat au cours d'un rassemblement religieux qui avait tourné en bain de sang en décembre 2015. En République démocratique du Congo, au moins 5 soldats et plusieurs civils ont été tués hier et aujourd'hui dans le territoire de Beni. Les ADF, les forces démocratiques alliées, sont accusés d'avoir massacré près de 400 civils depuis novembre, plus de 1000 en 5 ans. Sommet pour la paix entre le Rwanda et l'Ouganda, le président Paul Kagame et son homologue Yoweri Museveni se sont rencontrés à Gatuna, à la frontière entre leurs deux pays, en présence de Félix Tshisekedi de la RDC et João Lourenço de l'Angola. Nous faisons le point avec Eddie Isango.
Les quatre chefs d'État ont convenu que l'Ouganda devra vérifier les allégations du Rwanda sur des actions des forces hostiles à Kigali provenant du territoire ougandais. Si c'est avéré, les gouvernements ougandais est prié de prendre toutes les mesures pour y mettre fin, ainsi que des mesures préventives pour que cela ne se répète plus, indiquent les communiqués finaux. Une fois cette recommandation remplie et communiquée aux chefs d'État, les présidents Tshisekedi et Lourenço, les facilitateurs, conviendront dans les 15 jours jours de la tenue d'un sommet quadripartite à Gatuna au Katuna pour la cérémonie de rouverture des frontières et la conséquente normalisation des relations entre les deux pays. Cette action devra être vérifiée et confirmée par la commission ministérielle ad hoc pour la mise en œuvre du mémorandum d'entente de Luanda.
Au Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar sera officiellement nommé premier vice-président ce soir et il prêtera serment demain samedi. Le président Salva Kiir et M. Machar se sont convenus hier de former un gouvernement d'union nationale à la date butoir de samedi pour tenter de mettre fin à 6 années de guerre civile dévastatrice. Le premier ministre du Lesotho, Thomas Tabane, sur le point d'être inculpé du meurtre de sa précédente épouse, est parti pour l'Afrique du Sud voisine, officiellement pour raisons médicales.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis et les talibans signeront un accord le 29 février. C'est ce qu'ont annoncé les deux parties dans des déclarations simultanées. Sa concrétisation constituerait une avancée majeure vers la fin de ce qui est considéré comme la plus longue guerre de l'histoire américaine. Les précisions de Timothée Donangmaï.
L'accord prévoit un retrait par phase des 13 000 soldats américains présents en Afghanistan. En retour, les talibans veilleront à ce que le territoire afghan ne soit pas utilisé à des fins terroristes, de même qu'ils participeront au processus de réconciliation dans leur pays. La cérémonie de signature aura lieu à Doha, au Qatar, et sera précédée par 7 jours de réduction de la violence à partir de samedi à minuit. Les troupes américaines, les forces de sécurité afghanes et les combattants talibans se sont engagés à respecter cette mesure. Les négociations inter-afghanes débuteront peu de temps après et s'appuieront sur cette étape fondamentale pour conclure une paix complète et permanente, précise dans sa déclaration le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Cela fait 18 mois que les États-Unis et les talibans sont engagés dans de difficiles négociations au Qatar. Ils semblaient proches d'un accord, mais le président Trump avait suspendu les tractations suite à la mort d'un soldat américain dans une attaque menée par les talibans.
Présidentielle américaine de 2020, le Nevada tient demain la troisième primaire démocrate après l'Iowa et le New Hampshire. Le vote latino pouvant être décisif dans cet État, tous les candidats à l'investiture démocrate ont lancé des opérations de charme vers les électeurs hispaniques. Nous faisons le point avec Lionel Gaïma.
Au Nevada, plus d'un habitant sur quatre est d'origine latino-américaine. 328 000 hispaniques y ont le droit de voter. Le football est une passion universelle. À Las Vegas, le ballon rond se joue aussi en politique sous le nom de GoTV, Get Out the Vote. Autrement dit, sortez pour voter. Il est parrainé par le sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Chuck Rocha, son principal conseiller, explique.
Vous avez d'autres campagnes en cours dans tous les quartiers et nous sommes ici au cœur des communautés oubliées.
La campagne de Sanders vers les Latinos a commencé il y a 8 mois et cela a payé. Un récent sondage le montre en tête avec 48% de soutien parmi les Hispaniques. Elizabeth Warren a elle aussi sa stratégie pour gagner le vote hispanique.
Aujourd'hui, un emploi avec le salaire minimum ne peut protéger une maman et son bébé de la pauvreté. C'est faux.
L'autre candidate, la sénatrice de Minnesota, Amy Klobuchar, a dévoilé cette semaine une annonce publicitaire tout en espagnol. Et le vote latino sera très recherché le 3 mars lors du Super Tuesday. Ce jour-là, 14 États vont voter dans les primaires, dont la Californie, qui a la plus grande population hispanique des États-Unis.
L'Organisation mondiale de la santé a affirmé aujourd'hui que la fenêtre de tir pour enrayer l'épidémie du nouveau coronavirus se rétrécit, alors que les cas en dehors de la Chine continuent de progresser. Le nouveau virus a fait plus de 2 200 morts. Après l'attentat raciste de Hanau, l'Allemagne compte renforcer la surveillance policière, notamment autour des mosquées, pour tenter de contrer une menace d'extrême droite très élevée. Les rassemblements en mémoire des 9 victimes de la double fusillade de Hanau, organisés jeudi soir dans une cinquantaine de villes allemandes, ont laissé place à des débuts de polémiques sur les armes, la protection des minorités et le rôle du parti d'extrême droite AFD. Enfin, pour finir, en Iran, le vote pour les législatives a été prolongé aujourd'hui, où la faible participation devrait profiter aux conservateurs après la disqualification de milliers de candidats réformateurs et modérés. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Bagassi Koura.
Le climat des affaires au Sénégal s'est affaissé de 0,5 points au mois de décembre 2019 après une amélioration de 1,4 points enregistrée au mois précédent selon Financial Afrique, citant une enquête d'opinion réalisée auprès des chefs d'entreprise par la direction de la prévision et des études économiques. La Côte d'Ivoire aura désormais accès à la facilité régionale de soutien aux liquidités grâce à l'augmentation de son capital auprès de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique à 3,9 milliards de francs CFA. Selon Financial Afrique, le nouvel apport qui a été réalisé avec le soutien financier de la KfW par l'intermédiaire du gouvernement allemand est une opportunité supplémentaire pour la Côte d'Ivoire de renforcer l'accès à l'électricité dont la capacité de production est actuellement à 2229 mégawatts. Des enquêtes sur la mauvaise gestion présumée des grands travaux présidentiels ont conduit à l'interpellation d'un patron du BTP en République démocratique du Congo, où les autorités tentent de lutter contre la corruption endémique, a indiqué ce jeudi le ministre de la Justice, expliquant que le directeur général de la société Safricas a été retenu au parquet mercredi. Safricas est l'une des entreprises qui construisent une demi-douzaine de ponts routiers devant enjamber la chaussée à Kinshasa pour en finir avec des bouchons au grand croisement de la capitale.
Et maintenant, la page sport présentée par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Ibrahim Camara n'est plus le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire.
Oui, la Fédération ivoirienne de football a mis un terme à sa collaboration avec le sélectionneur de l'équipe nationale A, nommé sélectionneur en juin 2018, Ibrahim Camara, était en même temps l'entraîneur de l'équipe des moins de 23 ans. À la CAN 2019 en Égypte, les éléphants ont été éliminés en quart de finale par les Fenech d'Algérie, vainqueurs de la compétition. Les espoirs finalistes de la CAN de leur catégorie se sont qualifiés pour le tournoi de football masculin des Jeux olympiques 2020 prévus à Tokyo au Japon. Pour les éliminatoires de la CAN 2021 prévues au Cameroun, l'équipe nationale ivoirienne compte 3 points après une victoire sur le Niger et une défaite concédée face à l'Éthiopie.
Le Cameroun a clôturé le tournoi de Brazzaville par un match nul.
Oui, pour son second match dans le mini-tournoi, nouvelle étape de sa préparation pour le CHAN 2020, les Lions indomptables se sont accrochés au pays hôte, le Congo 1-1. Dimanche dernier, le Cameroun a ouvert la compétition après un succès 1-0 contre la République démocratique du Congo. Cap maintenant sur le retour à Yaoundé pour continuer la préparation. Les Lions indomptables affronteront le Rwanda le 24 février à domicile. Pour la phase finale, le Cameroun figure dans le groupe A avec le Mali, le Zimbabwe et le Burkina Faso. La compétition aura lieu du 4 au 25 avril prochain.
À Babel, Yeshane améliore le record du monde du semi-marathon.
Oui, l'Éthiopienne de 28 ans a battu le record du monde du semi-marathon en 1h 4 minutes 31 secondes. Performance réalisée à Ras Al Khaimah aux Émirats Arabes Unis. À Babel, Yeshane, qui abaisse son meilleur temps personnel de plus d'une minute, a été 20 secondes plus rapide que la précédente meilleure marque mondiale établie le 22 octobre 2017 à Valence par la Kenyane Jocelyne Jepkosgei. Aras Al Khaimah, l'Éthiopienne, a devancé la détentrice du record du monde du marathon, la Kenyane Brigitte Kosgei. « Je n'imaginais pas réaliser ce temps, j'ai réalisé le record du monde », s'est réjoui Yeshane après sa course.
Le tirage au sort de la Basketball Africa League a été effectué.
Oui, les 12 équipes issues des qualifications pour cette première édition ont été réparties en deux conférences. La conférence Nil comprend River Hoopers du Nigeria, FAP du Cameroun, Ferroviaro du Mozambique, Patriot du Rwanda, Zamalek Zamalek d'Égypte et l'US Monastir de la Tunisie. Cette conférence disputera ses rencontres à Monastir, Caire et Lagos. On retrouve GS Pétrolier, Petro Luanda, AS Salé, AS Douane, GNBC et AS Police dans la conférence Sahara. Les matchs prévus à Dakar, Salé et Luanda débutent le 13 mars dans la capitale sénégalaise. Les quatre meilleures équipes de chaque conférence se qualifieront pour les play-offs qui auront lieu à Kigali à partir du 28 mai.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. La campagne électorale pour la présidentielle de demain, samedi, au Togo, a pris fin hier. La jeunesse du pays, qui ne se voit véritablement pas dans la ligne de mire des prétendants à la magistrature suprême, veut être plus considérée, non pas seulement dans les discours politiques, mais aussi dans la mise en œuvre des plans de développement. Notre envoyé spécial à Lomé, Irénée Herman Oungbo, a rencontré quelques jeunes Togolais. Écoutez son reportage.
Cela fait plus de 5 ans que Moutalib, la trentaine, a obtenu une licence en droit à l'université de Lomé. Mais il est actuellement conducteur de taxi-moto, communément appelé Zemidja.
Comme ça n'allait pas, et j'ai frappé à certaines portes. J'avais commencé par travailler dans certaines petites entreprises. Et par après, comme c'était des entreprises privées aussi qui n'avaient pas assez de moi, ils ont finalement, jeté le point. Par après, je ne peux pas rester les bras croisés comme ça. Donc je me suis dit, je dois me lancer dans quelque chose pour pouvoir mobiliser un peu de fonds et commencer l'entrepreneuriat.
Comme Moutalib, ils sont nombreux ces jeunes Togolais à se forger un avenir dans l'informel. Ici au ministère de la fonction publique, les plus téméraires chercheurs d'emploi continuent de déposer leur dossier de candidature.
C'est une obligation pour nous. Parce qu'on a fréquenté, on veut du travail, on doit travailler.
Alors je suis là pour faire le dépôt du concours du ministère de la fonction publique, comptable niveau bac.
Pour Moutalib, le scrutin de samedi est d'une importance capitale, non pas seulement pour lui, mais aussi pour le peuple togolais.
J'irai voter, bien sûr, parce que c'est mon pays qui en dépend, c'est le développement de mon pays, c'est la nature de mon pays et l'avenir de la jeunesse qui en dépend.
Comme c'est un droit civique, je dois rappeler mon devoir.
On espère que ce qu'on va voter se ressentira au niveau du score et que ce ne sera pas une élection non transparente.
Pendant ce temps, les candidats pour le scrutin multiplient les rencontres avec de potentiels électeurs dans les différentes régions du pays. Chacun d'eux pour séduire l'électorat et graine des chapelets de promesses. La jeunesse togolaise, qui visiblement semble se lasser des promesses électorales, espère une amélioration de ses conditions de vie.
On n'a qu'à nous aider, mais c'est tout ça simplement, parce que c'est une visite, les gens s'ouvrent, mais on n'a qu'à nous aider.
Ce que nous demandons que le gouvernement fasse, c'est quoi? Qu'ils essayent de voir ceux-là qui ont l'âge avancé un tout petit peu, qu'on les appelle, qu'on essaie de les insérer en attendant. Vous voyez déjà, sinon ce serait un peu difficile de voir la majorité des diplômés en chômage. On peut toutefois quand même essayer de voir ce niveau.
Le clap de la fin de la campagne électorale a été donné jeudi. Samedi, plus de 3,6 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour une élection qui, espère-t-on, donnera un nouvel élan de développement au Togo, notamment à sa jeunesse qui compte beaucoup sur le prochain président. Irénée Herman Oungbo, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM. Conséquence de la fermeture prolongée des frontières du Nigeria avec ses voisins, le riz devient la principale victime sur le marché d'Abuja, avec des prix qui ont doublé, voire triplé. Le reportage de Gilbert Tamba dans un marché à Abuja.
Le riz subit de manière dramatique la fermeture des frontières du Nigeria avec ses voisins.
Cette denrée de première nécessité est devenue de plus en plus rare, par conséquent de plus en plus chère. Sur le marché des Garki à Abuja, il est stocké dans certaines boutiques. Son prix a quasiment doublé, voire triplé pendant ces 5 derniers mois. Le sac de riz local est passé de 8 000 à 16 000 naira et dans certains cas 19 000, soit un équivalent de 20 à 40 euros ou jusqu'à 48 euros. Pour les Nigériens, la situation est de plus en plus difficile, comme cette dame qui est venue chercher cette denrée rare.
La situation est difficile. Même si vous amenez de l'argent avec vous au marché, cet argent ne suffira pas pour acheter tout ce que vous voulez. Donc vous voyez, c'est pas facile. Je me débrouille seulement avec ce que j'ai et je suis vraiment triste.
Depuis le 20 août dernier, le Nigeria a verrouillé ses frontières avec ses voisins, le Bénin, le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Ghana et le Togo, avec pour objectif de renforcer la sécurité et lutter contre le marché noir. Des mesures jugées par beaucoup comme protectionnistes, mais qui commencent à peser sur le géant africain. L'inflation a augmenté pour le 5e mois consécutif à 12,13% en janvier 2020. Au marché des Garki, le plus grand marché d'Abuja, les grossistes se plaignent. Johanne Ifanjichukou.
Ils doivent trouver un moyen pour faire baisser les prix, parce que tout le monde ne peut pas avoir les moyens pour faire face aux coûts. C'est la raison pour laquelle vous voyez les gens souffrir. Les gens souffrent. Imaginez, moi je vends le riz en gros, mais il y a des gens qui viennent parfois me prier pour que je leur vende une demi-mesure. À certains moments, j'ai pitié d'eux et j'ouvre les sacs pour leur vendre. On avait l'habitude de vendre beaucoup pendant les fêtes de fin d'année, mais ça n'a pas été le cas en décembre dernier.
Pour Odilim Imvegbarak, économiste, la crise actuelle s'explique par le fait qu'il y a un manque à gagner à cause de la fermeture des frontières.
Cela signifie que vous essayez de produire ce que vous aviez l'habitude d'importer. Si vous commencez à produire ce que vous aviez l'habitude d'importer, il y aura un manque parce que vous n'importez plus. Mais la bonne nouvelle est que lorsque vous créez un manque, les producteurs locaux et ceux de l'extérieur viendront récompenser ce manque à gagner dans une période de temps. Donc au début, vous verrez une flambée de prix sur le marché, mais éventuellement les prix vont commencer à baisser parce que les produits importés seront désormais localement faits.
Le gouvernement affirme que des marchandises sont importées depuis les pays voisins pour éviter de payer des droits. La plupart de ces marchandises sont ensuite introduites en contrebande au Nigeria. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
L'arachide est une exportation importante du Sénégal. Il est produit essentiellement dans le bassin arachidier dans le centre du pays. Cette année, les grosses commandes des commerçants chinois ont perturbé la saison de vente traditionnelle du Sénégal, récompensant les agriculteurs avec de gros bénéfices, mais laissant les acheteurs locaux avec de minces recettes. Arzuma Compaoré.
Selon un rapport de la Banque mondiale de 2017, l'arachide emploie environ les 2/3 de la population rurale au Sénégal. Cette culture est une principale source de revenus pour la grande majorité des exploitations familiales. Mais la plupart des activités normalement associées au commerce de l'arachide se sont déplacées vers les villages voisins comme Sanguil, où des acheteurs chinois se sont installés. L'an dernier, 200 000 tonnes de cacahuètes sont allées à la Chine, au grand bonheur des agriculteurs. Sidi Ba, porte-parole de l'association des producteurs d'arachide.
Ce qui a changé, c'est que le marché est ouvert. Et aujourd'hui, j'ai dit que pendant presque plus de 20 ans, nous avons vendu à perte. Et cette année, nous avons vendu avec un profit. Un profit quand même qu'ils jugent important. Et nous disons que la boule a tourné et qu'aujourd'hui, les paysans des années 70 et des années 2000 n'est pas celui semblable à celui de 2020.
Les commerçants chinois ont été accusés de concurrence déloyale en achetant des arachides avant même leur récolte. Selon les agriculteurs et les autorités locales, ils offrent 300 francs CFA pour 1 kg d'arachide non décortiqué ou 525 francs CFA pour les noix décortiquées. En contrepartie, les entreprises locales de transformation des arachides, qui offrent généralement 210 francs CFA le kilo, ont eu du mal cette année à s'approvisionner et plusieurs ont été contraintes de licencier du personnel. Bay Nias Fall, un agriculteur de 50 ans, il dit qu'il a vendu 15 tonnes d'arachide aux Chinois à un meilleur prix que les entreprises sénégalaises qui transforment les noix en huile d'arachide. Mais il pense que ses résultats devraient être bien plus élevés.
Le prix auquel les Chinois achètent n'est pas bon pour nous. Nous vendons à perte. Les Chinois nous dictent leur prix, mais c'est plutôt au gouvernement de leur imposer un prix.
Le ministre sénégalais de l'Agriculture a déclaré que la Chine était le principal acheteur d'arachides sénégalaises depuis 2014, lorsque les deux pays ont signé un accord. Mais les quatre principales entreprises sénégalaises de transformation de l'arachide, qui dépendent de la production locale, souffrent des retombées. Moussa Fall, décortiqueur d'arachide.
Nous ne pouvons pas vendre d'arachide à 200 francs CFA alors que certains nous proposent 300 francs CFA. C'est très logique. Quant au gouvernement, il a également fixé le prix à 200 francs CFA seulement.
Le gouvernement a pris des mesures pour protéger l'industrie, suspendant les exportations d'arachide en janvier dans le but de permettre aux entreprises locales de se rétablir. À plus long terme, le gouvernement souhaite que les agriculteurs et les transformateurs d'arachide se mettent d'accord sur des modalités de ce commerce.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les Algériens observent le premier anniversaire du mouvement populaire qui a fait partir le président Abdelaziz Bouteflika. L'élection du président Abdelmadjid Tebboune ne semble pas avoir entamé leur détermination à obtenir un changement complet de la direction du pays. Timothée Dondangmaï a joint Charidine Beria, chef du bureau régional du journal El Watan à Tlemcen.
Pratiquement rien n'a changé. La principale revendication, c'était le départ de ce régime. Or, aujourd'hui, nous avons un président de la République qui est issu de ce régime, c'est-à-dire l'Irak. La révolution n'a pas réussi, ça c'est mon avis. C'est vrai, on a réussi à faire partir le président Bouteflika. Mais la revendication principale, c'était et c'est toujours le départ de ce régime. Malheureusement, nous vivons toujours dans ce régime qui met les gens en prison, qui n'a pas amélioré la situation du pays. C'est toujours le même pays de Bouteflika.
Quelle est l'attitude du nouveau gouvernement par rapport aux manifestations?
C'est toujours le président qui se veut. Qui veut montrer cette apparence de président ouvert aux médias, au peuple. Malheureusement, il y a toujours des personnes qui sont en prison pour délit d'opinion. Il y a des dizaines de gens qui sont toujours en prison. C'est les mêmes pratiques du régime de Bouteflika.
Quelle est la stratégie des manifestants face à cette situation?
Eh bien, justement, ça, c'est le problème. La stratégie, donc, on n'a pas changé de stratégie. Les manifestants n'ont pas changé de stratégie. Ils marchent toujours le vendredi. Les étudiants le mardi, c'est une stratégie qui n'a pas donné ses résultats, les résultats escomptés. Donc, à mon avis, il faut qu'ils changent de stratégie. Et ça arrange le pouvoir, puisque les manifestants marchent le vendredi, ça ne dérange ni l'économie du pays, ni la politique, ni la réalité. Le vendredi, c'est un jour férié, c'est un jour de prière, donc ça ne dérange pas le régime.
Comment s'organise la direction de ce mouvement populaire?
Il n'y a pas de direction. C'est-à-dire, c'est presque spontané. Je dis presque spontané parce que le citoyen de 48 wilayas, de 48 départements, il communique par le biais de Facebook, c'est-à-dire sans communiquer directement.
Mais comment obtenir les résultats escomptés si le mouvement n'a pas de chef clairement défini?
Justement, ça c'est mon avis, c'est ce que je reproche dont je fais partie, c'est-à-dire... Si on veut dialoguer avec ce pouvoir, il faut qu'il y ait des représentants. Malheureusement, au sein du mouvement populaire, on refuse cette alternative. On refuse qu'il y ait des représentants qui sont susceptibles d'aller avec le pouvoir. C'est ce qui manque, c'est l'organisation, c'est une stratégie. Donc ce pouvoir, une fois dans ce boom, a demandé au mouvement de dialoguer. Mais sur le terrain, on a refusé toute personne voulant dialoguer avec le pouvoir. C'est pire, certains se sont présentés comme des représentants, ils ont été bannis, ils ont été considérés comme des traîtres. Donc là, c'est ça qui est le point faible du mouvement populaire.
C'était Charidine Beria, chef du bureau régional du journal algérien El Watan à Tlemcen.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Lionel Gaïma, à la console Aïda Nkou, au micro Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, retrouvez-nous 24h sur 24 sur notre site internet voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, Instagram et Twitter bien sûr. Restez avec nous, tout de suite un nouveau point sur l'actualité présenté par Henri Francisque, suivi d'À votre avis, votre émission interactive avec Nathalie Barge aujourd'hui. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
VOA Afrique, les infos.